L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. On parle beaucoup de notre relation à la nature, de se reconnecter à la nature. On sait à quel point elle est importante, par exemple dans ce que l'on ingère. On voit de plus en plus des retours à des méthodes traditionnelles de soins. On a une relation aux plantes de manière générale, que ce soit le café, le tabac, l'alcool, le thé, extrêmement importante. Et pourtant, sur le sujet des produits dits hallucinogènes, on est, en France en tout cas, complètement bloqué. Et aujourd'hui, je suis hyper content, je pense que vous imaginez pas à quel point, de recevoir Françoise Bourza, que j'ai entendu pour ceux qui connaissent sur le podcast de Tim Ferriss, qui est sans doute l'une des femmes les plus respectées au monde, en tout cas aux États-Unis et dans le monde occidental, sur le sujet de la santé mentale et des produits hallucinogènes. Et avec Françoise, qui se trouve être française, même si ça fait 40 ans qu'elle est aux États-Unis, on va parler de ces produits, comprendre d'où vient cette diabolisation en France, comprendre à quoi ça peut servir sur le plan thérapeutique, comprendre comment aussi on les ingère, parce qu'en fait, évidemment, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans ces traditions, comprendre aussi si ils sont applicables à notre culture, tout simplement. C'est une conversation extrêmement intéressante, je crois, même si vous êtes a priori complètement bloqué sur le sujet. Je pense que ce sera intéressant pour vous de l'écouter, pour ouvrir des discussions dans votre famille, avec vos amis, avec vos collègues, pourquoi pas. En tout cas, je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Françoise.
Bonjour Grégory.
Je suis hyper ravi de faire cet épisode ensemble. Je voudrais commencer par ton histoire personnelle. Étant jeune, tu as eu une expérience assez traumatisante en Inde.
En Thaïlande.
En Thaïlande, pardon, mm-hmm. Je pensais que c'était en Inde. Sinon, mm-hmm. C'était avec un Indien et c'était en Thaïlande.
Avec un Indien en Thaïlande.
Et est-ce que tu peux nous expliquer cette expérience? Et j'aimerais bien comprendre quel rôle ça a eu pour toi dans ta vie.
Mm-hmm. Alors, cette expérience, c'était que je voyageais seule en Thaïlande. J'avais 23 ans et voilà, j'étais partie visiter quoi. C'était 79, il y avait pas beaucoup de pèlerins sur la route encore à cette époque-là, mais bon. Et je visitais un site où il y avait des anciens temples, donc. Et puis j'ai rencontré cet homme d'Inde qui était un ingénieur civil qui finissait un contrat en Thaïlande et qui avec lequel j'ai sympathisé pour la journée. Et nous avons échangé nos guides du routard machin. Et puis on a décidé de visiter un lieu de temple qui était un peu isolé, un peu séparé de la localité centrale de ces temples. Et puis, en fait, une fois qu'on était sur ce petit chemin, on s'est fait attaquer par deux bandits, deux brigands, qui nous ont tiré un pistolet sur porte, comme ça, là, paf, en direct. Et puis, il est mort. Il est mort devant moi. Il s'est fait tué dans la tête, quoi. Et moi, j'ai reçu une balle dans la jambe et je me suis écroulée et j'ai été récupérée par un petit fermier et puis emmenée à l'hôpital, emmenée à la station de police et enfin, etc. Cet homme était apporté sur la table d'opération à côté de moi où j'étais et il est mort là. Et j'étais très, très traumatisée, évidemment. Et en même temps, cet épisode de ma vie m'a vraiment fait voir la fragilité de la vie et la et le côté extrêmement précieux de la vie que j'avais et qu'est-ce que j'allais faire de ma vie alors que j'étais un petit peu incertaine. J'avais démarré des études, j'avais laissé mes études, j'avais voyagé en Amérique du Sud, dans les Amériques pendant 9 mois, faire du stop avec mon mec. J'avais 19-20 ans, c'était bien. J'avais fait des trucs sympas dans ma vie. J'étais assez aventurière, mais en même temps, j'étais pas très sûre de mon chemin professionnel, d'études ou quoi. Et en fait, cet épisode-là m'a vraiment mis sur des rails de faire le choix de vraiment ce que je voulais faire dans ma vie sans être limitée par ce que je devrais faire ou ce que la société me demandait de faire. J'étais assez déprimée, en fait. J'étais pas très sûre de moi-même, on va dire.